Bonjour à tous. Alors, pour introduire la prédication qui va suivre, nous sommes dans une série sur 2 Timothée, sur le deuxième épître de Paul à Timothée. Je voudrais introduire en vous proposant de réviser un peu votre code de la route. Alors, peut-être qu'il y en a parmi nous qui sont en plein dedans. Il y en a parmi nous, peut-être c'est des cauchemars anciens. Alors, je m'excuse pour ça, mais c'est juste pour l'introduction. Ça va durer 2-3 secondes, ça va être très rapide. Si je vous montre ce panneau, qu'est-ce qu'il indique ? Pardon, j'entends pas bien, un peu plus fort. Chaussée glissante, comme ce matin, ça peut être un peu glissant en ce moment, avec la neige qui tombe. Chaussée glissante, celui-ci. Double sens, on est d'accord, faut pas rouler sur la voie de gauche, sinon vous aurez peut-être du mal. Celui-ci, là, je trouve l'image vraiment géniale, celle-ci. Ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais vu personne le faire, mais c'est pas mal. C'est quoi ? Défense de plongée, oui, ça peut être. Finalement, c'est quoi ce panneau ? Une voie sur berge, tout à fait, avec une berge, tout à fait. Un autre encore, c'est celui-ci. C'est pas pour les maisons, c'est passage à niveau, tout à fait. Et un petit dernier pour autre danger, tous les types de dangers. Et si je vous demandais le point commun entre tous ces panneaux, ça serait lequel ? C'est rouge, oui, d'accord, oui. Il y en a qui sont dans le visuel. C'est des triangles aussi, toujours le visuel. Mais c'est des panneaux de quoi ? De danger, des panneaux de signalisation, des panneaux d'avertissement. Ces panneaux sont là pour nous avertir. Et justement, dans le troisième chapitre de la seconde épître à Timothée, nous avons un grave panneau d'avertissement qui nous est adressé par l'apôtre Paul. Un panneau d'avertissement avec souligné « Attention, danger ». Il y a 2 semaines, avec Reynald, nous avons vu Paul dans chapitre 1, qui a une parole paternelle vis-à-vis de son fils spirituel, vis-à-vis de Timothée. La semaine dernière, avec Jean-Marc, nous avons pu voir une parole d'encouragement de la part de l'apôtre. Et ce matin, le troisième chapitre, c'est une véritable parole d'avertissement que Paul lance à Timothée et que Paul nous lance à travers les siècles. Une parole d'avertissement très solennelle, comme on le voit dès le verset 1, je vous propose de lire. Donc, 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Paul introduit son propos, ce chapitre, par une référence à la période finale de l'histoire, ou dans d'autres traductions, au dernier jour. De quoi s'agit-il exactement ? Est-ce qu'il s'agit d'une période lointaine, une période future qu'on n'aura jamais à vivre nous-mêmes ? Non. Dans le langage biblique, la référence à une période finale ou au dernier jour fait toujours référence à la période qui suit la mort et la résurrection de Christ. La période, autrement dit, dans le temps de biblique, la période de l'Église. Nous vivons cette période. Il s'agit donc de notre période actuelle. Paul et Timothée ont vécu dans la période des derniers jours. Nous vivons dans la période des derniers jours. Et quelle sera la caractéristique principale de cette période ? La caractéristique principale de la période que nous vivons aujourd'hui, Paul nous dit que ce sera des temps difficiles, des temps difficiles. Et pour bien marquer la difficulté de cette période, Paul utilise là un terme en grec pour parler de bêtes sauvages, dangereuses, ou pour parler de la mer tumultueuse. Donc ce n'est pas une difficulté simple, ça sera vraiment difficile. De graves difficultés vont marquer notre période, la période de l'Église. Et l'ère de l'Église, quand on regarde un peu les siècles passés, a été marquée, c'est vrai, par des difficultés pour ceux et celles qui veulent suivre Christ. Et Paul lance un avertissement à Timothée ici. Ça va être dur. Et Paul nous lance le même avertissement. Ça va être dur. Ça va être dur. Et pourquoi et en quoi ça va être dur ? Paul nous répond par la suite dans le texte. L'apostasie, c'est-à-dire le reniement de la foi chrétienne, l'abandon de Dieu, va aller jusqu'à habiter au sein même de l'Église. Au sein même de l'Église, certains vont abandonner Dieu. Certains vont renier Christ. Des hommes et des femmes se disant chrétiens, se disant nés de nouveau, vont rejeter les bases de la foi chrétienne et vont chercher à en entraîner plusieurs avec eux. Et c'est tout là l'avertissement de Paul par rapport à ces personnes-là, ces soi-disant chrétiens qui vont rejeter la foi, ce qui compose les bases de la foi chrétienne, et qui vont essayer d'en entraîner plusieurs avec eux. Je vous invite à poursuivre notre lecture donc du verset 2 au verset 9 d'abord. Donc Paul décrit d'abord ces hommes. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ceux qui ont fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les familles pour envoûter les femmes instables, au passé chargé et entraînées par toutes sortes de désirs. Elles veulent toujours en savoir plus, mais ne sont jamais capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. Et de même qu'autrefois Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes-là s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence faussée et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais leur succès sera de courte durée, car leur folie éclatera aux yeux de tous, comme ce fut le cas jadis pour ces deux imposteurs. Donc, dans un premier temps, jusqu'au verset 5, Paul dresse le portrait de ceux qui seront les adversaires de l'Église, les adversaires de la vérité, les adversaires de Christ. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Paul n'y va pas avec le dos de la cuillère pour les décrire. Il dresse un tableau assez alarmant des tendances perverses du cœur humain. Et comme un commentateur l'a écrit, c'est un catalogue d'horreurs que Paul nous laisse là. On retrouve 18 caractéristiques pour ces hommes, plus une dernière qui est un peu plus développée au verset 5. Ces 18 caractéristiques. Égoïstes, littéralement amis d'eux-mêmes, avides d'argent ou avares, littéralement amis de l'argent. Vantards, aussi traduit par fanfaron ou présomptueux, c'est une manifestation extérieure de ce qu'ils sont à l'intérieur. Prétentieux ou arrogants, c'est-à-dire s'élevant au-dessus des autres avec mépris. Parlant de Dieu d'une manière injurieuse, traduit aussi par profane ou immoraux. Sans égard pour leurs parents, ils seront rebelles contre leurs parents, donc rebelles à toute forme d'autorité. Cela a aussi été traduit par sans affection. Ingrats, sans respect ou irréligieux, sans cœur ou insensible, sans pitié ou déloyaux, c'est-à-dire refusant la paix ou la réconciliation, calomniateurs ou répandant de fausses rumeurs, incapables de se maîtriser ou intempérants, cruels ou sans miséricorde, qui ne pardonnent jamais, le terme grec signifie féroce ou brutal, ennemis du bien ou ennemis des gens du bien, c'est-à-dire des gens qui sont contre tout ce qui est bon, emportés par leur passion, enflés d'orgueil ou prétentieux, traîtres ou sournois, aimant le plaisir plus que Dieu. Et la dernière caractéristique de ces hommes, qui est davantage développée au verset 5, où il est dit « Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ceux qui ont fait la force. » Et sans doute cette dernière caractéristique peut-être la plus effrayante. De telles attitudes, de tels sentiments peuvent se manifester parmi ceux qui se prétendent chrétiens. Autrement dit, dans cette description, Paul ne décrit pas des personnes qui seraient athées, contre Dieu, ignorants et qui se corromperaient. Il décrit des personnes qui se disent chrétiennes, des chrétiens de nom, quelque part. Des personnes qui professent Christ extérieurement, mais qui rejettent ceux qui ont fait la force. C'est quoi ce qui en fait la force? La nouvelle naissance, la puissance de transformation intérieure de Dieu, dans le cœur, dans notre âme. Ces personnes vivent dans le mensonge, car ils se disent chrétiens, alors qu'ils vivent consciemment dans le péché. c'est ce qu'on voit dans ces caractéristiques. Ils cherchent à se satisfaire eux-mêmes plutôt que de plaire à Dieu, ce qui conduit forcément à une corruption morale. Ils aiment le péché, ils se complaisent dans le péché, car comme le dit le texte, ils sont amis d'eux-mêmes, amis de l'argent, amis du plaisir, plus que de Dieu. Paul avertit Timothée solennellement, ce n'est pas des païens que Timothée doit se méfier, mais des chrétiens de nom, de ceux et celles qui gardent la forme extérieure de la foi, tout en rejetant ce qui en fait la force, ce qui en fait la puissance, le message de la croix. Et Paul nous avertit de la même manière encore aujourd'hui. Finalement, ce ne sont pas les athées qui sont dangereux pour nous, parce qu'on n'est pas tenté de devenir athée. Par contre, ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas, représentent le véritable danger pour nous, car leur impact peut être considérable dans la vie de véritables chrétiens. Leur apparence chrétienne les rend d'autant plus dangereux, du style « il fait ça et il est chrétien ». Alors pourquoi je ne ferais pas ça moi aussi ? Il interprète la Bible comme ça et il est chrétien. Alors pourquoi on ne pourrait pas comprendre la Bible comme ça ? C'est là tout le danger, pernicieux. Certains exemples de ce type de chrétien de nom sont plus ou moins célèbres, comme par exemple le révérend Henry Lyons, président de la National Baptist Convention, la plus grande dénomination chrétienne, africaine, noire africaine, des États-Unis, qui a été condamné pour détournement de fonds et dont l'argent servait principalement à entretenir sa maîtresse. On peut aussi voir plusieurs théologiens libéraux, comme par exemple Rudolf Bultmann, pour qui il y a une liste de mythes dans la Bible qu'il convient d'éliminer, comme entre autres, excusez du peu, la divinité de Christ, à rayer, sa mort substitutive à la croix, à rayer, sa résurrection, à rayer. Ce sont des exemples d'hommes et de femmes, chrétiens de nom, mais qui peuvent entraîner beaucoup à leur suite, malheureusement. Et face à ce catalogue d'horreurs, je me pose deux questions, moi. Comment savoir où j'en suis ? D'abord, est-ce que je fais partie de ces chrétiens de nom ou est-ce que je suis un véritable enfant de Dieu ? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces caractéristiques ? Égoïste, sans cœur, cruel, avide d'argent, ennemi du bien, vous reconnaissez ? Moi, je peux me reconnaître dans ces caractéristiques. Et malheureusement, pas forcément dans une ou deux, mais dans plusieurs, pour ne pas dire toutes. Alors, qu'est-ce qui fait la différence ? Est-ce que je suis enfant de Dieu ou est-ce que je suis un chrétien de nom, simplement ? Je crois qu'il y a deux éléments qui peuvent nous aider à méditer sur ces caractéristiques. D'abord, il peut nous arriver de tomber dans ces péchés. Mais Paul, ici, décrit des hommes dont ces caractéristiques sont typiques de leur vie. Elles marquent leur caractère de manière tellement forte et habituelle qu'il est impossible qu'ils aient laissé l'Esprit de Dieu travailler en eux et les transformer véritablement. Deuxième élément, on peut tomber dans de tels péchés, mais on ne peut pas aimer comme ces hommes peuvent l'aimer et prendre un tel plaisir dans ces péchés. Au contraire, lorsqu'on chute, les réactions normales devraient être une tristesse profonde vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de nous-mêmes. Un désir de repentance qui habitera notre cœur et pas l'amour pour le péché. Maintenant, c'est à chacun de discerner pour soi-même. Ce n'est pas le fait de fréquenter une église, ce n'est pas le fait que vous soyez là sur un banc ce matin qui fait la différence. Ce n'est pas le fait d'être né dans une famille chrétienne qui fait la différence. Ce n'est même pas le fait de vous être levé peut-être un jour lors d'un appel qui fait la différence. La différence se fait entre autres dans notre attitude face au péché. Notre attitude face au péché. Est-ce que le péché est occasionnel dans ta vie ou est-ce qu'il est habituel, récurrent pour toi ? Est-ce que le péché te rend triste à la recherche de la repentance vis-à-vis de Dieu ou est-ce que tu aimes profondément le péché ? Deuxième question que me pose ce texte et à laquelle Paul répond clairement. Si quel comportement adopter face aux chrétiens de nom, face à ceux qui professent Christ mais qui ne sont pas chrétiens et qui le prouvent par leur caractère. Il ne s'agit pas seulement de discerner pour soi-même, mais de discerner aussi pour les autres. C'est ce que la Bible nous demande en tout cas. Si on reconnaît un tel chrétien de nom qui a un impact faux et néfaste dans l'Église auprès de chrétiens véritables, qu'est-ce qu'il convient de faire ? Paul le dit clairement à la fin du verset 5, « Détourne-toi de ces gens-là. Détourne-toi de ces gens-là. » Il faut s'en éloigner. Et c'est pour cette raison que Christ a institué la manière dont la discipline doit être exercée au sein de l'Église, en Matthieu 18. La défense de la foi chrétienne, la défense des plus faibles, des plus jeunes, nécessite de les protéger d'une telle influence néfaste. Et c'est ce que Dieu nous demande, de vérifier, de faire attention et de savoir se détourner quand c'est nécessaire. Après avoir donné donc cette description précise des adversaires de l'Évangile, Paul explique une méthode qu'ils emploient pour propager leurs idées et détourner certains. Il explique du verset 6 au verset 7. Certains d'entre eux s'introduisent dans les familles pour envoûter des femmes instables au passé chargé et entraînées par toutes sortes de désirs. Elles veulent toujours en savoir plus, mais ne sont jamais capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. Ces hommes s'attaquent en fait à une certaine catégorie de personnes, de manière plus particulière. Et dans l'église d'Éphèse, où était Timothée à ce moment-là, il s'agissait d'un groupe de femmes en particulier. Ce texte ne signifie pas, je crois, que toutes les femmes sont forcément plus à même d'être des proies faciles pour ses adversaires. Et il ne signifie pas non plus qu'aucun homme n'a de souci à se faire par rapport à ses adversaires de l'Évangile. Il faut plus regarder, je crois, le caractère de ces femmes qui servent d'illustration en fait aux propos de Paul. Ces hommes s'attaquent en fait aux plus faibles. Ils captivent ceux qu'ils savent être vulnérables. Accablés par un sentiment de culpabilité, ces femmes étaient des proies toutes faites pour les faux docteurs et leurs tromperies. Il s'agissait de personnes qui se sentaient écrasées par leurs péchés, tellement écrasées qu'elles étaient prêtes à se tourner auprès de n'importe qui pour avoir une solution. N'importe qui. Ils s'attaquent aux plus ignorants. À cause d'un soi-disant désir d'apprendre, ces femmes ont embrassé la première hérésie venue. Elles ne savaient tout simplement pas distinguer la vérité biblique de l'Évangile et le mensonge. Elles ne savaient pas. Et conscientes de leur fardeau, de le charger, et cherchant toujours à être soulagées, elles étaient prêtes à s'ouvrir à n'importe quelle doctrine, même si elle était contraire à ce que la parole annonce, à ce que la Bible dit. Elles étaient prêtes à chercher n'importe quelle nouvelle religiosité. Et le texte évoque en fait des personnes qui ne cessent de passer d'un faux enseignement à un autre. Ils ne parviennent jamais à la compréhension de la vérité qui sauve et qu'on ne trouve qu'en Christ. Encore des prières qu'on a entendues ce matin. Ce n'est pas l'amour de la vérité qui habite ces personnes, mais plutôt l'amour pour n'importe quelle nouveauté religieuse qui habite ces personnes. Et enfin, ces hommes, ces adversaires s'attaquent aux plus admiratifs. On peut voir entre les lignes que ces femmes recherchent en fait une sorte de guide spirituel. Quelqu'un, finalement, à adorer. Les adversaires, eux, de leur côté, sont justement aussi marqués par le désir de dominer. Ils cherchent donc à s'attacher ces personnes, à en faire des fans. Et ce faisant, ils les détachent de Christ, ils les détachent de l'Église. Je me souviens, il y a quelques années, d'avoir assisté à une réunion inter-église. Il y avait plusieurs églises représentées. Et il y avait un groupe de femmes qui attendaient le pasteur de leur église. Et c'est assez étrange. Quand le pasteur est arrivé, toutes ces femmes étaient là autour du pasteur. Et elles sont toutes. Le pasteur s'est assis, toutes les femmes étaient regroupées autour de lui. Alors je ne connais pas plus cette église, je ne veux pas juger, mais il y avait comme un malaise. Comme si le pasteur était au centre de leur attention. Et je crois que quand quelqu'un est trop au centre de l'attention, il y a un souci. C'est Christ qui doit être au centre de notre attention. On peut avoir des exemples, des modèles, et on y reviendra. Mais c'est Christ qui doit être au centre de notre attention. À l'image des magiciens égyptiens, auquel le pharaon avait demandé d'imiter les miracles exécutés par Moïse, ses adversaires qui s'opposent à la vérité présentent une contrefaçon. Ils présentent une contrefaçon. Et le pire, c'est qu'ils ont du succès. Il est dit au verset 9, « Mais leur succès, ils ont du succès. » Et c'est vrai encore aujourd'hui. Il y a quelques années, et ce n'est pas complètement fini, la bénédiction de Toronto a connu un succès incroyable, par exemple. Des milliers de personnes ont afflué du monde entier vers cette ville, notamment, pour recevoir une bénédiction de l'esprit plus particulière, soi-disant. Cette bénédiction de l'esprit se manifestait chez ces personnes par des tremblements incontrôlables, des rires hystériques, des rugissements, et pire encore, des choses qui sont complètement contraires à ce qu'enseigne la parole. Et pourtant, il y a des milliers d'hommes et de femmes qui ont recherché cela, une bénédiction supérieure, le sentiment d'avoir plus de puissance de l'esprit. Nous devons savoir, je crois, que les adversaires de la vérité peuvent connaître le succès. Et cela ne doit pas nous étonner, quelque part. Mais Paul veut rassurer Timothée, et nous avec. Il dit que leur succès sera de courte durée. Tôt ou tard, Dieu mettra en lumière les choses. Tôt ou tard, la vérité est rétablie. Ça peut prendre du temps, mais un jour ou l'autre, l'Église de Jésus-Christ reconnaît le mensonge. Et dans tous les cas, face au Dieu Tout-Puissant que nous avons pu décrire en début de culte, devant le trône blanc, personne ne pourra se cacher. Tôt ou tard, la vérité est rétablie. On poursuit notre lecture, où Paul va nous donner maintenant, après avoir présenté qu'est-ce que l'apostasie à laquelle nous pouvons être confrontés, des moyens de vaincre l'apostasie, et deux moyens en particulier. Je vous invite donc à poursuivre au verset 10. Mais toi, il s'adresse solennellement à Timothée, mais toi, tu as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. Tu as pu voir quelles persécutions et quelles souffrances j'ai endurées à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelles persécutions en effet n'ai-je pas subies ? Et chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Mais les hommes méchants et charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal, trompant les autres et trompés eux-mêmes. Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Face à l'apostasie qui sévissait à Éphèse et qui peut encore sévir aujourd'hui, Timothée doit rester attaché à deux références fortes dans sa vie, qui l'accompagnent depuis longtemps et qui sont mises en parallèle ici dans ce texte. D'une part, l'exemple et l'enseignement de Paul, avec qui Timothée a longtemps été associé, et d'autre part, les Saintes Écritures que Timothée connaît depuis longtemps, depuis son enfance. Et à l'image de Timothée, je crois que ces deux références fortes doivent nous aider, nous aussi aujourd'hui, à nous protéger et à vaincre l'apostasie si elle s'approche de nous sous une forme ou une autre. La première référence qui doit nous aider à vaincre l'apostasie, c'est l'observation de chrétiens plus mûrs, qui portent des fruits évidents dans leur témoignage, dans leur attitude, ou encore dans la gestion des difficultés et des épreuves. Et pour bien marquer cela, Paul se compare lui-même à ses adversaires. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la vie et le ministère de Paul contrastent nettement avec ceux des adversaires de l'Évangile. À travers cela, Paul ne cherche pas à se vanter, mais il tient juste à rappeler à Timothée les qualités qu'exige la consécration à Dieu. Et Timothée a pu voir en Paul sept choses qui doivent lui servir d'exemple. Son enseignement en tant qu'apôtre, son enseignement a servi de fondement à l'Église, comme le dit Éphésiens 2, verset 20. Sa conduite, il n'y avait pas de différence entre l'enseignement de Paul, ce qu'il disait, ce qu'il faisait. Ses projets, sa passion pour Dieu qui animait Paul. Sa foi, la vie de Paul est marquée par sa fidélité à Dieu malgré toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer. Sa patience, cela décrit quelqu'un qui n'abandonne jamais, quel que soit le prix à payer. Son amour, Paul était totalement désintéressé dans ses actes. Son endurance, Paul manifestait une persévérance à toute épreuve dans sa vie de foi. Et au-delà de toutes ces qualités de caractère que nous devons observer pour discerner la vérité du mensonge chez ceux qui nous entourent, chez les chrétiens modèles qui nous entourent, une autre perspective peut aussi nous aider à bien distinguer le vrai du faux. C'est celle de l'épreuve. Parce que comme le dit Paul à Timothée, tu as pu voir quelle persécution et quelle souffrance j'ai endurée. Qui ne voudrait pas avoir une foi, un amour, une consécration comme ceux de Paul? Mais qui voudrait en plus les mêmes épreuves que Paul a subies? Paul est particulièrement clair dans ce passage. Une vie pieuse amène forcément à connaître la persécution. Verset 12. Tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Paul cite plusieurs villes où il a été persécuté. Il s'agit de villes où Timothée était à ses côtés, de villes où Timothée a pu observer, a pu être témoin des persécutions de Paul, de villes où Timothée a lui-même subi les mêmes persécutions. Paul a connu la persécution car une vie pieuse révèle la faute des adversaires et des autres. Une vie pieuse révèle la méchanceté du cœur d'autres. Et au lieu de se repentir, ses adversaires peuvent chercher à détruire celui qui révèle qui ils sont vraiment. Paul n'a jamais flatté ses auditeurs. Il ne se posait pas la question de sa popularité. Au contraire, il a annoncé un message impopulaire et il en a parfois subi les conséquences. Et dans toutes ces villes, Paul témoigne qu'à chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. Comment comprendre cela alors qu'il cite la ville de Lystre, là où Paul et Timothée sont rencontrés pour la première fois, et quand Paul et Timothée sont rencontrés pour la première fois, Paul a été lapidé et laissé pour mort. Et Paul dit, à chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. Dans la difficulté, au sein de la persécution et au fond de sa prison, Paul a connu la délivrance du Seigneur. Et cette délivrance n'était pas l'absence de souffrance, comme on le conçoit souvent, mais la présence de Dieu dans la souffrance, au cœur même de la souffrance. Et pour nous aujourd'hui, que doit-on en conclure? Tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu, par leur union avec Jésus-Christ, connaîtront la persécution. Est-ce que ça nous concerne? Oui, ça nous concerne. Nous vivrons des persécutions si nous voulons demeurer fidèles. Elles prendront peut-être d'autres formes, surtout dans nos pays occidentaux, des critiques, l'exclusion, l'incompréhension, une hostilité larvée ou ouverte peut-être. Si vous dites « Christ est tout pour moi », le monde va vous traiter d'intégriste. Des pseudo-chrétiens vous catalogueront peut-être comme fanatique. Il y a un prix à payer pour suivre Christ entièrement. Mais cela ne signifie pas, par contre, que la persécution soit recherchée pour elle-même ou qu'il faille la provoquer par notre faute, bien entendu. Ce n'est pas ça que le texte dit. Pour vaincre l'apostasie, la première référence, c'est l'observation. Observer les fruits dans le caractère propre et dans les difficultés de la vie chez des chrétiens mûrs. Des chrétiens qui peuvent nous servir de bon exemple dans nos vies. Parce qu'il y a bien des choses dans la vie chrétienne qu'on apprend en observant des chrétiens plus mûrs. Et la deuxième référence que Paul nous laisse, du verset 14 au verset 17, c'est de mettre la parole en avant dans nos vies. Timothée doit rester attaché à la parole de Dieu. Et cela doit aussi être le cas pour nous. On ne doit pas être à la recherche toujours de toutes les dernières nouveautés spirituelles, entre guillemets. Les adversaires de Timothée à Éphèse prétendaient être en avance sur les autres et avoir compris ce que personne d'autre n'avait compris. La foi chrétienne a un fondement objectif, des doctrines fondées, établies, claires, auxquelles nous devons rester attachés, nous aussi aujourd'hui. Et comment connaître ce fondement et ces doctrines? À l'image de Timothée, au verset 14, « Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. » Nous devons apprendre. Nous avons un effort de compréhension, un effort de mémorisation à faire devant la parole. Il ne s'agit pas simplement de lire comme un roman. Il y a un effort à faire. Nous devons être convaincus. Apprendre à connaître sa Bible va plus loin que de savoir réciter une simple leçon de maths, de physique ou de je ne sais quelle autre matière. Il s'agit d'intégrer le contenu de la parole de Dieu, de le digérer, de le faire sien. Soit sien, et pas simplement une leçon qu'on récite. Être convaincu. Timothée possédait un avantage certain par rapport à beaucoup d'autres, surtout à cette époque-là. Il avait pu apprendre dès l'enfance les Écritures à travers sa mère et sa grand-mère, Loïs et Eunice. Et à cette époque, on enseignait l'Ancien Testament aux enfants juifs dès l'âge de 5 ans. La connaissance de l'Écriture dès son jeune âge est, je crois, un atout tellement extraordinaire dans la vie. Et souvent, on ne s'en rend peut-être pas assez compte. Je me souviens de temps en temps où je me disais, moi qui suis né dans une famille chrétienne, ça aurait été peut-être bien que je découvre la foi plus tard. J'aurais peut-être eu un témoignage plus grand ou plus merveilleux à donner. Parce que mon témoignage est plutôt un témoignage de continuité dans ma vie. Mais quelque part, on ne se rend pas assez compte du privilège que nous avons pour ceux et celles qui ont eu des parents chrétiens, qui ont pu vivre dans une église dès leur jeune âge. C'est tellement un privilège. Une statistique que j'avais donnée lors de l'étude biblique le prouve bien. 86% des chrétiens, 86% des chrétiens ont eu un accès privilégié à la Bible avant leurs 15 ans. On peut faire le test ce matin. Je vous propose de lever la main tous ceux qui ont eu un accès privilégié à la Bible, à travers leurs parents, à travers l'école dimanche, ou à travers n'importe quelle œuvre, avant leurs 15 ans. Levez votre main. 86%, je ne sais pas combien on est de pourcents, je vais pas faire le calcul ce matin, mais beaucoup. C'est un tel privilège d'avoir reçu cette parole dès son jeune âge, comme pour Timothée. Et cela suffit à défendre l'intérêt de toutes les œuvres qui sont faites en faveur des enfants, comme l'école dimanche, comme les camps, les colos, les éclaireurs, les écoles de dimanche inter-église, écoles bibliques, tout ce qui peut exister. Ça suffit de voir 86%, l'impact que ça peut avoir dans une vie. Et ça souligne aussi, je crois, notre rôle d'éduquer nos enfants dans la foi, en tant que parents, pour ceux qui le sont, d'être des modèles. J'ai moi-même, comme je le disais, appris dans une famille chrétienne la connaissance de Dieu, et je remercie entre autres mes parents, ma mère en particulier, qui m'ont appris à aimer la parole de Dieu, à aimer la lecture de la parole de Dieu. Je n'ai jamais fait d'école biblique, mais j'ai fait, peut-être certains d'entre vous connaissent, le concours biblique, de 8 à 15 ans à peu près. Et ça m'a marqué, parce que ça m'a donné la capacité à méditer, à réfléchir sur la parole. Et je crois que c'est tellement de privilèges de recevoir la parole de Dieu dans son enfance, que nous devons vraiment remercier Dieu pour cela, pour cet accès privilégié qu'on peut avoir dès l'enfance. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que ceux qui n'ont pas eu cet accès sont moins bénis, bien entendu. Mais c'est un tel atout dans la vie. Et peut-être qu'on n'en prend pas assez conscience parfois de ces choses. Par la suite, au verset 16, l'apôtre nous laisse l'un des versets les plus connus de la Bible, un verset fondateur de la puissance de la parole. « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie sainte ou conforme à la volonté de Dieu. » Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, littéralement expirée par Dieu ou soufflée par Dieu. Et la Bible est l'œuvre du souffle du Créateur de Dieu, qui a utilisé l'esprit des auteurs, leur vocabulaire, leur caractère, leur expérience pour produire sa parole. Une parole parfaite, infaillible, libre de toute erreur. Et 2 Pierre 1, verset 20, l'affirme avec force. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine, qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est parce qu'elle a été soufflée par Dieu que la parole est utile ou profitable dans quatre domaines bien précis. Utile pour enseigner d'abord. Il y a dans la parole le contenu complet et exhaustif des vérités divines nécessaires pour mener une vie sainte, une vie de piété. La parole révèle la pensée de Dieu et nous devons l'aborder avec l'envie d'apprendre à son contact. Utile pour réfuter ou convaincre. La parole convainc celui ou celle qui se trompe vis-à-vis de Dieu ou de la foi. Par exemple, il peut arriver que nous ayons une vision fausse de Dieu. On peut avoir la vision, chez certains chrétiens, que Dieu est un Dieu dur, un Dieu juge, et vivre toute sa vie dans la crainte de Dieu, et pas vivre dans la paix de sa sollicitude, de sa compassion. On peut au contraire voir Dieu comme quelqu'un de toujours bon, toujours aimable, le type à vous donner des tapes dans le dos, amicales, et ne pas être conscient de la sainteté de Dieu, ne pas être conscient du respect que nous devons avoir devant lui. Et en plongeant dans la parole, on découvre bien entendu l'équilibre entre un Dieu d'amour qui nous aime au-dessus de tout, notre Père qui pardonne nos péchés, mais aussi un Dieu juge, juste, et qui jugera toutes choses à la fin des temps. Utile pour redresser ou corriger aussi. Le sens littéral du mot utilisé ici est de réparer un objet pour lui rendre son état initial, ou de remettre debout un objet renversé, ou encore de relever une personne qui tombe. Redresser ou corriger. La Bible met en lumière le péché, notre péché. Comme le dit Hébreux 4, versets 12 à 13, la parole de Dieu est vivante, efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Mais la parole ne se contente pas de reprocher le péché. Elle transforme aussi. Elle indique en même temps quelle direction prendre pour suivre le droit chemin. Elle dit pas « ça c'est mauvais ». Elle tourne notre horizon vers ce qui est bon. Et c'est toute la différence de la parole de Dieu par rapport à un simple avertissement. Utile enfin pour instruire ou apprendre. La parole offre une éducation positive qui enseigne les comportements adaptés à la volonté de Dieu. La parole de Dieu indique en détail ce qui plaît à Dieu. Aujourd'hui, il existe une forme de pression de plus en plus pressante, de plus en plus forte qui s'exerce au sein même des églises, pour qu'on diminue l'enseignement. On veut plus de chants, on veut plus de témoignages, et on veut du light pour l'enseignement. On veut de l'allégé pour l'enseignement. Récemment, en faisant quelques recherches, je suis tombé sur une nouvelle Bible anglophone qui s'appelle la Bible Expresso. La Bible Expresso. Mais à regarder plus près, ce n'est pas une Bible. C'est juste un regroupement de quelques versets pour des chrétiens pressés. Au lieu de lire toute la Bible, on lit 2-3 versets. J'ai lu ma Bible, c'est bon. La Bible pour chrétiens pressés, en fait. La tentation moderne, avec nos agendas toujours plus remplis, c'est de diluer la parole de Dieu. Nous sommes faibles et des proies faciles pour les adversaires de la vérité si nous manquons d'amour pour la lecture de la parole. Nous sommes faibles lorsque nous manquons de connaissances et de fondements bibliques dans notre foi. Un pasteur était un jour invité chez une famille chrétienne. Et en parlant avec la maman, il lui dit « J'aimerais vous lire quelques passages de la Bible, mais malheureusement j'ai oublié la mienne. Pourriez-vous me prêter votre Bible ?» La maman se tourne alors vers sa fille et lui dit un ton mielleux empreint de religiosité « Ma petite chérie, voudrais-tu aller me chercher le livre que maman aime lire et le donner au pasteur ?» Avec obéissance, la fille rapporta le programme télé à sa mère. Est-ce qu'on se retrouve dans ce portrait ? C'est quoi le livre qu'on aime lire ? C'est quoi le livre de chevet de notre vie ? Apprenons à remettre la parole de Dieu en avant dans nos vies et nous serons protégés. C'est en nous appuyant sur sa parole que Dieu peut nourrir et former l'homme de Dieu en nous. Verset 17. L'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve prêt et équipé. C'est grâce à la parole que l'homme est prêt pour l'action et le service pour Dieu. C'est la parole qui doit être à la base de notre service. Et cela tranche peut-être avec l'idée moderne où il faut avoir des diplômes pour servir ou pour faire des choses. Il ne faut pas rejeter les diplômes. Mais ce n'est pas les diplômes qui font qu'on est apte à servir Dieu. C'est la parole, notre consécration à la parole qui peut faire que nous sommes aptes dans le service pour Dieu. Et contre les fausses doctrines, les erreurs, les mensonges, en tout genre qui peuvent circuler librement dans le monde. Je crois que notre antidote, c'est la parole de Dieu. C'est de se tourner et de plonger nos regards dans la parole de Dieu pour savoir ce qui est vrai de ce qui est faux dans ce qu'on nous dit et même dans ce qu'on nous dit parfois dans le milieu chrétien. En conclusion, dans ce chapitre, Paul nous avertit solennellement. Les temps vont être difficiles. Les temps seront difficiles et les temps seront toujours plus difficiles, je dirais même. Et ils seront difficiles pour ceux et celles qui veulent demeurer fidèles à Dieu. Nous serons confrontés à des chrétiens de nom qui nous donneront de mauvais exemples, un faux témoignage, qui vont pouvoir avoir un impact, une influence sur nous. Et nous serons toujours plus pressés de l'autre côté par la société de nous conformer à l'esprit du monde. Paul nous appelle à résister en nous appuyant sur deux références, à l'image de nos deux jambes en fait. Pour tenir debout, on a besoin de deux jambes. Pour tenir ferme, on a besoin de ces deux références. L'observation de chrétiens plus mûrs, dont les fruits en l'honneur de Dieu sont évidents. L'écoute attentive, régulière et profonde de la parole de Dieu. Que nous puissions vraiment, chacun, réfléchir à ces choses et nous poser la question où j'en suis par rapport à Dieu et par rapport au péché. Est-ce que j'appartiens et que je suis un enfant de Dieu? Est-ce que, en fait, je suis hypocrite face à Dieu? Et pour ceux qui peuvent dire oui, je suis enfant de Dieu, est-ce que je fais toutes choses pour me protéger en observant des modèles, des références vraies, en plongeant mes regards dans la parole? Je propose qu'on puisse prier. Oui Seigneur, tu nous avertis que les temps seront difficiles. Tu nous avertis que ce ne sera pas simple de te suivre et de demeurer fidèle à tes voies. Mais Seigneur, merci parce qu'en même temps que tu nous avertis, tu nous donnes des pistes pour nous protéger, pour nous garder, pour rester fidèle à toi. Et Seigneur, je te prie pour chacun ici ce matin, pour moi-même Seigneur, pour que nous ayons le désir d'avoir des modèles, des références qui sont vraies dans nos vies. Des hommes et des femmes qui puissent nous donner le bon exemple pour que nous puissions mettre ta parole en avant dans nos propres vies, qu'elle soit vraiment notre la chose la plus précieuse pour nous. Merci pour ces défenses que tu nous donnes. Et je te prie de garder notre Église aussi de tout mauvais penchant, de toute mauvaise direction, Seigneur, et nous garder dans la foi de ta parole, Seigneur, dans la bonne direction que tu nous donnes. Amen.